Merci beaucoup, bonjour. Chacun sent que j'ai fait une prédication. J'ai très peur, hein? Parce que je sais que je vais faire des erreurs. Je sais qu'il y a des temps, il y aura des temps que je dois utiliser le subjonctif. Je vais le rater. Mais bon, je sais aussi que le même Dieu qui a fait le miracle à Pentecôte va prendre ma parole et pour le changer entre ma bouche et vos oreilles. Donc j'ai confiance en lui. La famille Thomas, and I will ask them in English. You just thought they would not be able to understand. Did you guys go to the Louvre? Did you see the Mona Lisa? La Joconde? Comme elle est petite. Comme ça. Les Américains ont toujours les pensées que, oui, la Joconde, elle est proie. Comme ça. Mais les... Mais la première fois que je l'ai vu, j'ai un sentiment de waouh. Waouh. Ça, c'est la Joconde, la Mona Lisa. De Da Vinci lui-même. Waouh. Mais si au Louvre, il y avait une autre œuvre de Da Vinci, ou une autre, en guillemets, Joconde, qui n'est pas la vraie, on pensait, oh, ça c'est un peu, ça donne un peu de la déception, quoi. Parce que c'est pas la vraie. Et nous tous, nous cherchons la vérité dans nos vies. Et avec nos amis, avec nos familles, nous voulons partager ce qui est vrai de l'évangile de Jésus-Christ, de la parole de Dieu. Mais si nous voulons gagner le respect et le droit d'être entendus en ce qui concerne notre foi, nous devons nous assurer que ce que nous croyons vient du Seigneur. Qui vient de sa parole. Et que ce que nous croyons qui a vraiment touché notre propre vie avant de la partager avec les autres. Donc, regardez avec moi l'épître de Paul. À Galates chapitre 1. On va lire pas mal de versets ce matin. Galates chapitre 1. On va commencer avec verset 11. Et on va lire jusqu'au verset 10 de chapitre 2. Ce matin, j'utilise le second 21. Donc, Galates chapitre 1, verset 11. Je vous le déclare, frères et sœurs, l'évangile que j'ai annoncé ne vient pas de l'homme. En effet, je ne l'ai moi-même ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Vous avez d'ailleurs entendu parler de mon comportement autrefois dans le judaïsme. J'ai persécuté à outrance l'Église de Dieu. J'ai cherché à la détruire et j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ce que mon âge parmi mon peuple. Car j'étais animé d'un zèle excessif pour la tradition de mes ancêtres. Mais Dieu m'avait mis à part de la vente de ma mère et m'appelait par sa grâce. Lorsqu'il a trouvé bon de révéler son fils en moi afin que j'annonce parmi les non-juifs, je n'ai consulté personne. Je ne suis même pas monté à Jérusalem vers ce qui était apôtre avant moi, mais je suis aussitôt parti pour l'Arabie. Puis, je suis retourné à Damas. 3 ans plus tard, je suis monté à Jérusalem pour faire la connaissance de Pierre. Et je suis resté 15 jours chez lui. Mais je n'ai vu aucun autre apôtre, si ce n'est Jacques, le frère du Seigneur. En vous écrivant cela, je l'affirme devant Dieu, je ne m'aime pas. Je suis allé ensuite dans la région de la Syrie et de la Cilicie. Or, mon visage était inconnu des églises de Judée qui sont en Christ. Elles avaient seulement entendu dire « Celui qui nous persécutait auparavant annonce maintenant la foi qu'il s'efforçait alors de détruire et il rendait gloire à Dieu à cause de moi. » 14 ans plus tard, je suis monté de nouveau à Jérusalem avec Barnabas. J'avais aussi pris Tite avec moi. J'y suis monté à la suite d'une révélation et je leur ai présenté l'évangile que je prêche parmi les non-juifs. Je l'ai exposé en privé à ceux qui sont les plus considérés afin de ne pas courir ou avoir couru pour rien. Or Tite, qui était avec moi et qui est grec, n'a même pas été contraint de se faire circoncrire, malgré les prétendus frères qui s'était furtivement glissé parmi nous pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ, avec l'intention de nous asservir. Nous ne leur avons pas cédé un seul instant, afin que la vérité de l'Évangile soit maintenue, pour vous. Quant à ceux qui sont les plus considérés, ceux qui étaient autrefois, m'importe peu, Dieu ne fait pas de favoritisme. Ils ne m'ont rien imposé de plus. Au contraire, ils ont vu que l'Évangile m'avait été confié pour les incirconcis, les non-juifs, comme à Pierre pour les circoncis, les juifs. Que celui qui a fait de Pierre l'apôtre du circoncis a aussi fait de moi l'apôtre des non-juifs. Et ils ont reconnu la grâce qui m'avait été accordée. Jacques, Képhas qui est Pierre, et Jean, qui sont considérés comme des piliers, nous ont alors donné la main d'association à Barnabas et à moi, afin que nous allions, nous, vers les non-juifs, eux, vers les circoncis. Ils nous ont seulement recommandé de nous souvenir de preuves ce que j'ai eu bien soin de faire. Prions. Seigneur, merci pour ta grâce, pour ta parole. Sois avec nous tous ce matin, Seigneur. Et que ce que nous croyons, Seigneur, que tout vient de toi. Au nom de Jésus. Amen. Donc, on va regarder 5 points ce matin que nous trouvons dans ce passage assez long de Paul. Et un peu de son histoire. Premièrement, on a la révélation de l'Évangile. Paul. Regarde avec moi le verset 11 du chapitre 1. Je vous le déclare, frères et sœurs, l'évangile que j'ai annoncé ne vient pas de l'homme. En effet, je ne l'ai moi-même ni reçu, ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Donc le message, la révélation, la nouvelle que Paul annonce à l'église de la Galatie et dans toutes les autres régions aussi, ne vient pas de l'homme, ni des enseignements humains. Et on trouve aussi dans le verset 22 que son visage était inconnu des églises de Judée. Donc cette révélation vient ni des hommes, ni des enseignements humains, ni par les églises, ni par des piliers de Jérusalem, les apôtres, on a dit tout à l'heure, mais ils sont révélés par Jésus-Christ lui-même. C'est pour une révélation. Donc la source de ce que nous croyons est importante. C'est très important, la source. Parce que si
Je ne prends pas. Hein. Je suis nul en art. Je ne peux pas faire une ligne droite. Mais si je pense, magnifique Joconde. Parfait. Je l'amène au Louvre. Et je lui demande, voici un cadeau pour vous. S'il vous plaît, de le mettre juste à côté de la Joconde, s'il vous plaît. Je crois qu'il me dira, ah, ben non, ça c'est un faux Joconde. C'est pas la vraie. Parce qu'il connaît la source. Donc la source de nos croissants, de ce que nous croyons, c'est important. L'autorité de Paul, ici d'enseigner les églises, de faire des disciples, venait du Seigneur lui-même, pas les autres. Et notre autorité doit venir du Seigneur aussi, par la parole révélée de Dieu, transmise par l'autorité des écrivains, inspirés comme Paul, comme Pierre, comme tous les autres écrivains de le livre de la Bible, qui ont entendu le Seigneur lui-même. La crédibilité et l'authenticité de notre foi, de notre évangile, doit être fondée sur la parole de Dieu. Ce livre c'est un livre très important. Ce n'est pas juste la Bible. C'est les paroles de Dieu qui ont été transmises de sa bouche par le Saint-Esprit aux écrivains et qui ont été conservées pour nous aujourd'hui. Donc notre crédibilité, notre authenticité, notre foi, notre évangile doit être fondée sur la parole de Dieu. Donc la norme par laquelle nos croyances doivent être mesurées est toujours la révélation de Dieu, pas les opinions d'hommes. Parce que notre opinion change tout le temps, tout le temps, tout le temps. Oui, comme le météo. Il y a quoi? Il y a un mois? Comme il y a des circulations, on a de l'eau au fond de l'église, on prend une petite pause afin de boire un petit coup à cause de la canicule. Et puis, un mois plus tard, ça fait parfait. Donc les opinions de l'homme changent tout le temps, tout le temps, tout le temps. Si vous êtes fan des sports, même comme nous sommes à Clermont, si vous êtes fan du rugby, comme moi, comme Eric, comme les autres, les opinions changent concernant l'ASM tout le temps. S'ils gagnent, nous sommes la meilleure équipe du monde. Dès qu'ils ont perdu, nous sommes nuls. Faut changer toute l'équipe. Mais c'est vrai. Mais notre Dieu, il ne change jamais. Il est constant. Nous pouvons mettre notre confiance en lui. Donc voici la révélation que Paul a reçue. Deuxièmement, cette révélation, qu'est-ce qu'elle a produit dans la vie de Paul? Une transformation. Une transformation de son ancien mode de vie. Versets 13 et 14. Vous avez d'ailleurs entendu parler de mon comportement autrefois dans le judaïsme. J'ai persécuté à outrance l'Église de Dieu. J'ai cherché à la détruire.
Et j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge parmi mon peuple. Car j'étais animé d'un zèle excessif pour les traditions de mes ancêtres. Donc dans la vie de Paul, avant sa conversion, comme il nous écrit, hein, il était plus avancé. Il était vraiment auto. Parmi les gens de son âge. Parce qu'il était, comme il a écrit, hein, il était animé d'un zèle excessif. Et son mode de vie était changé. Et cette transformation radicale de Paul était connue pas seulement entre les églises de la Galatie, mais parmi les croyants dans tout la Judée. Parce qu'on lit en verset 22. Mon visage était inconnu des églises de Judée qui sont en Christ. Elles avaient sûrement entendu que celui qui nous persécutait auparavant annonce maintenant la foi qu'il s'efforçait alors de détruire. Il ne connaît pas Paul par son visage, mais il connaît sa réputation. Mais Paul a été transformé radicalement par Jésus-Christ. Et maintenant, il avait une réputation favorable parmi les églises. Donc, sa transformation de Paul était si radicale que même dans les endroits où Paul ne connaissait pas, les personnes lui connaissent, sa réputation comme un homme était complètement changée. C'est pas le même homme, hein? C'est pas le même Paul. Parce que celui qui nous persécutait auparavant annonce maintenant la foi qu'il s'efforçait alors de détruire. Et cette transformation était déclarée comme témoignage de la puissance de l'évangile de Jésus-Christ. Et j'essaie de soi toujours dans ma tête. Hein. Parce que souvent, on prie pour nos proches qui ne connaissent pas Jésus. Et des fois, on pense que c'est impossible. Mais rien n'est impossible avec notre Dieu. Et si notre Dieu avait changé Paul dans cette manière, il peut changer ce qu'il veut. Parce qu'il est Dieu. La vie transformée de Paul était un témoignage constant à la puissance de l'évangile de changer des vies. Est-ce que vous le croyez ce matin? Que l'évangile a une puissance et il peut changer les vies. J'espère que oui. Parce qu'il y a très peu de preuves solides de la puissance de Jésus-Christ pour changer les vies. Il y a très peu qui sont plus solides que les témoignages personnels. Des exemples des hommes et des femmes qui ont été transformés par la bonne nouvelle. Les gens, nous tous, nous aimons les histoires. Quand nous parlons de Jésus, avec quelqu'un qui ne croit pas, et on commence on raconte notre vie avant Jésus et puis après Jésus et le changement qui est arrivé. Waouh! C'est une vraie puissance. Nos témoignages, nos histoires. Mais, malheureusement, à l'autre côté, il est plus de choses plus invalidantes pour le message, pour l'évangile que nous proclamons, que les personnes qui professent la foi, oui, je suis chrétien, mais dont la vie ne démontre aucune différence de ce qu'ils ne croient pas. Parce que nous sommes différents. Dès que nous sommes mettre nos foi en Jésus-Christ, il a commencé de nous changer. Cette nouvelle homme, cet esprit, le Saint-Esprit qui a pris son place en nous. Nous sommes changés nos vies, nos désirs, nos pensées. Oui, bien sûr, il y a des fois qu'on pêche encore, mais nos vies doivent être différentes. Nous devons permettre à Jésus de transformer nos cœurs, nos esprits et nos vies pour sa gloire. Et comme un témoignage de la validité de ce que nous croyons et de ce que nous proclamons. Troisièmement, la méditation de Paul. Donc, après sa rencontre avec Jésus, Paul n'a pas passé ses premières années en revue son expérience avec les hommes, mais il est parti à son, on dit en guillemets, son séminaire dans le désert, à apprendre du Christ en étant seul avec Jésus. Verset 16 et verset 17. Lorsqu'il a trouvé bon de révéler son Fils en moi, afin que je l'annonce parmi les non-juifs, je n'ai consulté personne. Je ne suis même pas monté à Jérusalem vers ce qui était apôtre avant moi, mais je suis aussitôt parti pour l'Arabie, puis je suis retourné à Dama. Donc après sa rencontre avec Jésus, Paul est resté seul. Et en Jean, chapitre 6, j'ai un petit souci, je le vérifie. Ah oui, c'est bien ça. Jean, chapitre 6. Verset 44 et 45. Jésus parle de le fait qu'il est le pain de vie, comme nous avons chanté tout à l'heure. Et les Juifs, comme tout le temps avec Jésus, ils ont murmuré à son sujet, parce qu'il avait dit, « Je suis le pain descendu du ciel. » Verset 21. Et il disait, verset 42. N'est-ce pas Jésus, le fils de Joseph, celui dont nous connaissons le père et la mère? Comment donc peut-il dire, je suis descendu du ciel? Jésus leur répondit, ne murmurez pas entre vous. Personne ne peut venir à moins que le père qui m'a envoyé ne l'attire. Et moi, je le ressusciterai le dernier jour. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi donc, toute personne qui a attendu le Père et s'est laissé instruire vient à moi, comme Paul l'a fait. Il n'y a pas de substitut efficace pour entendre le Seigneur lui-même, comme Paul le dit dans sa défense de sa foi. Nous ne pouvons pas se permettre de compter entièrement sur ce que les autres nous disent, ce que les autres nous enseignent à propos des questions de foi, à moins que nous passions du temps avec le Seigneur, en méditant sur sa parole, en méditant sur lui-même, d'être sûr que ce que nous entendons est fidèle à sa parole. J'aime bien le fait qu'il y ait plusieurs gens qui font la prédication ici. Mais peu importe. Ne prenez pas le mot, ma mot, le mot d'Éric pour la vérité. Teste-les. Testez-les contre la parole de Dieu. D'être sûr. Que c'est la vérité. Donc nous devons faire attention à équilibrer notre croissance dans la connaissance de Christ en nous engageant à temps seul avec le Christ pour être enseignés de Dieu. Que nous avons lu dans Jean. Des périodes prolongées de méditation, de réflexion dans sa parole. Et nous devons prier pour que Dieu prenne sa parole, le planter dans nos cœurs et changer nos vies. Quatrièmement, la confirmation. Éventuellement, bien sûr, Paul se sent réuni avec les autres apôtres à Jérusalem, comme en temps de la communion fraternelle et de partager l'esprit fraternel de leur patrimoine communion, de l'évangile de Jésus-Christ. Mais ça, c'est, si on veut, Galates chapitre 2, verset 1, 14 ans plus tard, je suis monté de nouveau à Jérusalem avec Barnabas et avec Tite. Et encore une fois, Paul dit que la base de son action, par exemple pour laquelle il est allé à Jérusalem, était la même sur laquelle reposait son message, la révélation. Je suis monté à la suite d'une révélation. Le Seigneur lui a donné d'y aller. Rien de nouveau, rien de différent a été ajouté à ce que Paul avait déjà reçu du Seigneur. Comme il a noté, lorsqu'il a déclaré, ceux qui sont les plus considérés contribuent rien pour moi. Mais, en guillemets, la reconnaissance de la grâce qui avait été donnée à moi. Ils ont donné à moi et à Barnabas la main d'association. Donc c'est pour Paul et pour Barnabas, c'est une confirmation qu'il était appelé de prêche parmi les non-juifs. Et à la direction du Seigneur, même Paul, avec la puissance de ses convictions, a confirmé ce qui avait été montré pour lui demander conseil aux autres croyants matures. Et cette révélation du Seigneur est devenue l'écriture pour nous. Les paroles que Dieu a donné à Paul, sont maintenant les Écritures. Mais beaucoup pour pervertir, pour déformer, adapter la parole. Et beaucoup le font, hein. Beaucoup de personnes le font. Ils pervertissent, ils déforment, ils adaptent la parole de soutenir leur propre doctrine. Mais le Seigneur a prévu le contrôle et l'équilibre de la parole révélée et le discernement spirituel et l'avocat des hommes et des femmes. Nous devons donc confirmer doctrine saine par la sagesse des anciens, des leaders qui peuvent tester la validité de ce que nous croyons contre tout le conseil de Dieu. Si vous êtes en train de lire un passage chez vous, vous avez des questions, n'hésitez pas de demander à quelqu'un, à Eric, à Fabrice, à les autres. tester la validité. Et finalement, le dévouement. Malgré les prétendus frères qui s'étaient furtivement glissés parmi nous pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ avec l'intention de nous asservir, nous ne leur avons pas cédé un seul instant afin que la vérité de l'Évangile soit maintenue pour vous. Parce que Paul avait ces dernières et beaucoup d'autres assurances, il a été totalement dédié à Jésus-Christ, totalement dédié à l'Évangile de son ouvre. À la fois pour sa foi personnelle et à l'autre pour le proclamer, pour proclamer l'Évangile aux non-juifs. Paul savait que ce qu'il croit est venu du Seigneur, qu'il n'avait pas besoin de céder un seul instant, un seul petit point, parce qu'elle est la vérité. Et nous devons avoir confiance en ce que nous croyons. Et puis, le vivre sans céder. Pas de compromis. Je suis chrétien. Écoutez, trop de temps. Tant que chrétien, quand nous sommes entourés par les gens qui ne croient pas, on change. On change nos vies, on change nos pensées, on change nos manières. Pierre fait la même chose, hein, dans les Écritures. Ce que dit Paul ou Pierre? Pierre, ouh! Bien sûr, Paul. Paul dit face à face. Dans le grec, c'est nez à nez. Paul dit à Pierre, on ne peut pas faire ça. Donc c'est très, très, très important que nous vivons de ce que nous croyons. Sans céder. Pas de compromis. Pas de « je suis désolé, mais je suis chrétien ». Non. Peut-être je suis le seul, j'espère que non. Mais je suis fier d'être chrétien. Je suis très heureux que Dieu m'a appelé. Et quel privilège que nous avons d'être appelés les enfants de Dieu. On n'a pas besoin de baisser. Il vit comme ça. Je suis chrétien. Je vais vivre éternellement. Dans les Écritures, c'est écrit que je suis plus que vainqueur. Allez. Non. Pas du tout, hein? Nous sommes plus que vainqueurs. Mon frère et le vôtre aussi est le roi de rois et le seigneur des seigneurs. Pensez un petit peu de ça. Que le même Dieu qui a dit allô, lumière. Et tac. Il a des lumières. C'est le même Dieu qui habite en nous tous. Oh! richesse. Quelle grandeur, quelle force que nous avons grâce à notre Dieu. On parle souvent, on chante souvent, on chante grand et merveilleux. Grand et merveilleux sont toutes tes œuvres. Oui. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu est grand et merveilleux. Et Paul le savait, hein? Il le savait. Et donc les cinq parties ici de nos passages ce matin, les cinq parties de la défense de Paul, quant à les marées rapides de son opposition, nous serviront bien aussi si nous le comprendons et les embrasser. Premièrement, c'était la révélation. Donc j'ai cinq questions pour vous. Je sais que c'est toujours les vacances, mais j'ai cinq questions. Que selon la révélation, est-ce que nous sommes enracinés dans la vérité qui a été révélée de Dieu, ou par Dieu, dans sa parole? Que selon la transformation, est-ce que notre vie a été radicalement transformée par la puissance du Saint-Esprit et par la grâce de Jésus-Christ? Que selon la méditation de l'apôtre, est-ce que nous appliquons à nos vies ce que nous avons appris, ce que nous avons lu dans les moments seuls avec la parole, avec Jésus, dans notre méditation? Dans la confirmation. Est-ce que nous avons confirmé notre direction avec le conseil sage d'être certain que nous n'avons pas ajouté ni enlevé de l'évangile, de la parole de Dieu? Et cinquième, le dévouement. Est-ce que nous sommes tellement bons? C'est dans rien. Au défi constant, à nos convictions en Jésus-Christ. Aux États-Unis, on dit souvent que Dieu est bon. Et les gens répondent en tout temps. Oui, le pasteur dit, et en tout temps, Dieu est bon. Il est bon. Il est grand. Il est merveilleux. C'est lui qui a envoyé son Fils unique. C'est grâce à Jésus que nous pouvons dire à bientôt, papa. Parce que Jésus est vraiment le pain de vie. C'est son sang qui nous a purifiés, qui nous rend blanc, plus blanc que la neige. On prend une petite prière, on va passer le mot de l'essence sainte. Prions, Seigneur, merci encore pour ta grâce et pour ta fidélité envenue. Et Seigneur, tu es grand, tu es glorieux, tu es merveilleux, Seigneur. Et nous offrons ta parole, Seigneur. Et je prie, Seigneur, que nous vivions avec le même esprit, la même conviction que Paul. Qu'il n'y a jamais de déception en toi. Parce que, Seigneur, tu veux notre bien. Oui, des fois, des choses arrivent, on ne comprend pas. Mais ça, c'est la raison pour laquelle que nous devons tenir ferme, Seigneur, à ta parole et à toi-même. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu as fait pour nous. Au nom de Jésus. Amen.